Voyage au bout du monde. Une évasion exotique animée par Isabelle Rupin.
Un voyage en immersion au cœur de la forêt amazonienne et surtout à la rencontre des peuples qui y vivent, c'est l'invitation que nous fait Patrick Bernard, ethnologue et conférencier, entre autres, pour le groupe Altaïr, et donc présent à Laval aujourd'hui. Patrick Bernard, bonjour.
Bonjour.
Pour vous présenter, donc vous êtes ethnologue et vous avez surtout vécu, en ce qui nous concerne en fait, en immersion et en vrai, comme un autochtone finalement, au milieu de ces peuples de l'Amazonie.
Oui, en fait, depuis presque 50 ans maintenant, je consacre ma vie à m'engager aux côtés des peuples premiers, des derniers des peuples premiers, et à vivre en immersion au sein de ces communautés pour mieux les comprendre, pour mieux appréhender aussi les problèmes qui sont les leurs, parce qu'ils en ont beaucoup. Et l'Amazonie, en fait, c'est une très longue histoire, puisque ça a démarré par là. En 1976, je suis parti en solitaire en Amazonie guyanaise, donc en Guyane française. J'ai remonté le fleuve Maroni et puis après l'Itani pour arriver dans une petite communauté amérindienne en Tekumpata chez les Indiens Wayana. Et là, j'ai été adopté par un couple qui trouve un peu bizarre de voir ce jeune français paumé en plein milieu de la forêt, épuisé, fatigué. Et je suis tombé amoureux d'une certaine forme de vie. Et je suis tombé aussi en empathie avec les problèmes de ces peuples. Et je suis reparti parce que je suis tombé malade. Mais j'y suis revenu en 1977, où là, j'ai été appelé à subir les rites de passage, les rites initiatiques, qui consistait entre autres à se faire piquer des pieds jusqu'au cou par à peu près 200 guêpes et fourmis carnivores coincées dans une vannerie qu'on vous passe sur tout le corps. Puis après, il y a des épreuves de tentation, des épreuves de privation de nourriture. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont fait que je suis revenu comme un initié. Et je suis retourné dans cette même tribu en 1988, donc à peu près 11 ans après, avec ma propre mère, parce que j'ai voulu que ma mère rencontre ma mère adoptive. Entre-temps, j'avais perdu mes deux pères. Et puis après, mes souliers voyageurs m'ont emmené aux quatre coins de la planète parce que j'ai fondé une association de défense des droits de l'homme, une fondation. Donc je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le terrain, pas seulement pour faire des films. Et je ne suis revenu dans ce village d'adoption que l'hiver 2019-2020. Donc j'ai fait mes dernières images en hiver 2019-2020. Alors bien sûr, j'ai rencontré des gens, lorsque je les avais connus dans les années 70, c'était des enfants ou des adolescents, c'est devenu des parents. Les parents de l'époque sont devenus des grands-parents. Et puis, entre-temps, eh bien, il y a eu beaucoup de voyages en immersion au Brésil, chez les Yawalapiti, avec lesquels on a fait un projet dont on pourra parler là tout à l'heure, ou chez les Waorani d'Équateur qui ont été contactés assez récemment, assez hostiles au monde extérieur, en Amazonie bolivienne également. Donc j'ai calculé que j'ai dû séjourner à peu près 3 ans, si je mets tout bout à bout, au fond de la forêt amazonienne.
Et à la rencontre de peuples dont on entend très peu parler, parce qu'en fait ils vivent le plus possible en autarcie, c'est une volonté de leur part.
C'est une volonté pour ceux qui ont compris ce qui allait arriver s'ils fricotaient trop avec les Occidentaux et les Blancs, parce qu'on sait très bien que ça ne se passe pas bien, on le sait, partout. La Guyane française, pour ne prendre que cet exemple dont on parlait, les Wayana, c'est le plus fort taux de suicide de jeunes adultes entre 15 et 40 ans au monde. Donc on dépasse les États-Unis, on dépasse le Grand Nord. On sait que les Amérindiens souffrent beaucoup de la perte des repères. Donc c'est vraiment ce qui se passe là. Et puis dans d'autres endroits de la planète, il y a vraiment une sorte de résistance autochtone. C'est le cas des Yawalapiti au Brésil, dans la réserve du Haut-Xingu. C'est entre Brasilia et le fleuve Amazon, si vous voulez. Et là, ces tribus qui se sont retrouvées déplacées à l'intérieur de réserves pour faire de la place aux prospecteurs, aux déforesteurs, aux planteurs de soja et tout ce qui s'ensuit, eh bien ces tribus ont compris que si elles ne se protégeaient pas, elles allaient mourir. Donc ils ont interdit l'accès de leurs réserves à tout ce qui est prospection et tout ça, mais aussi aux missionnaires, également aux touristes. C'est-à-dire qu'ils ont gardé, ils sont restés profondément ancrés à leurs racines les plus profondes. Ils ont surtout gardé leur spiritualité animiste. Parce qu'en fait, la conversion à des religions dominantes, c'est ce qui contribue vraiment à tuer l'âme d'un peuple. Donc ils sont restés très fortement animistes. Et c'est cette tribu, les Yawalapiti, par la voix de son chef, Aritana, en 2010, qui m'ont fait une demande un peu particulière. Les jeunes, en fait, sont très attirés par nos technologies. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Facebook et tout ça.
Oui, donc en fait, leur autarcie...
Elle est toute relative. C'est l'isolement dans la forêt, c'est qu'il faut du temps pour aller les rejoindre. Mais maintenant, les moyens modernes, ils les ont, ils les ont acquis. Et donc, le chef de tribu m'a dit, on est bien conscient que malgré toutes les précautions qu'on a prises, notre culture va mourir. Parce que toute la transmission se fait des plus anciens aux plus jeunes. Et quand les plus jeunes sont attirés par autre chose, ben, ils n'ont plus envie d'écouter les anciens. Et ce chef m'a demandé d'apprendre à une dizaine de jeunes passionnés par les techniques audiovisuelles. Il m'a demandé de leur apprendre à utiliser mon matériel, les caméras numériques, les enregistreurs numériques, ce que nous avons fait, et de leur fournir du matériel. C'est aussi pour ça que j'ai créé une fondation, parce qu'il fallait tenir le coup financièrement pour supporter tout ça. Et le chef a demandé à ces jeunes, une fois qu'ils ont été formés, d'enregistrer la parole des anciens avant qu'il soit trop tard, qu'elle ne s'éteigne à jamais, de filmer les rituels avant qu'ils ne disparaissent ou qu'ils ne se dégradent de trop, au point de devenir un vulgaire folklore qu'on sert en pâture aux touristes qui débarquent en voyage organisé. On sait très bien, quand une culture devient du folklore, c'est qu'elle est morte. Et ils ont fait ce projet pendant presque 10 ans, ils ont fait ce travail autour de leur rituel fondateur, des rituels très importants. Toute la deuxième partie du film que je présente, c'est le film qu'eux-mêmes ont tourné autour d'un de leurs grands rituels qui s'appelle le Kwaroop. Et ça a tellement bien marché qu'on a créé cette fondation pour accompagner tous ces projets qui consistent à constituer les mémoires audiovisuelles de peuples qui n'ont pas la chance d'avoir des écrits et qui n'ont pas non plus de vieilles pierres comme nous dans lesquelles sont gravées notre histoire. Alors maintenant, bah avec notre fondation, on fait ça chez les Pygmées au Congo-Brazzaville, on le fait chez les hommes-fleurs en Indonésie, on le fait chez les Naga dans le nord-est de l'Inde, chez les Wayana également, on commence à le faire, dans plein d'endroits où des chefs de tribu ou des jeunes sont sensibles au fait qu'il faille graver leur mémoire quelque part.
On peut peut-être donner le nom de votre fondation, oui, Patrick Bernard.
C'est la fondation Anako, et elle n'est pas très loin de la Mayenne, elle est basée à Saumur.
Et effectivement, il y a des choses à voir, justement, pas très loin de chez nous, qui concernent, justement, que vous avez monté avec votre fondation. On en dit un mot très rapidement.
Oui, alors on a monté en 2013 l'ethnomusée Anako du château de Verrières. C'est dans la périphérie de la petite ville de Loudun, à la frontière de la Vienne et de du Maine-et-Loire. Et c'est un ethnomusée qui est ouvert tous les ans, en été, et qui reçoit des expositions temporaires ou permanentes, des animations, des choses pour les enfants. Enfin, il y a 600 mètres carrés d'exposition pour mieux comprendre les cultures des peuples que nous sommes allés souvent annihiler ou coloniser ou envahir, pas seulement sur les terres, mais également leur culture. Et puis, on a créé un festival, le Festival Anako du film ethnographique. Donc, il a lieu tous les ans à la fin du mois de juin. Cette année, ça sera du 23 au 26 juin, au château de Verrières et dans toutes les salles de cinéma, centres culturels de la petite ville de Loudun. Et dans les 2 mois qui précèdent, à 100 km à la ronde. Donc, vous voyez, on va aller à Angers, au cinéma Pathé-Gaumont, on va aller à Saumur, on va aller à Thouars, on va aller à Chinon, on va aller à Poitiers, enfin, dans plein d'endroits. Et là, on ouvre cette année un nouveau site dans la ville de Saumur, qui nous a été confié par la ville de Saumur. C'est le château de la Reine de Sicile, qui se trouve sur l'île d'Ophar. Vous savez, Saumur, il y a une île, c'est un peu comme l'île de la Cité à Paris, en plein milieu de la Loire. Et ce château de 500 mètres carrés va accueillir un cycle de conférences axé sur le dialogue des cultures, de rencontres audiovisuelles, et puis là aussi des expositions. Et pour le coup, lui, comme il est en ville, dans une zone très touristique, il sera ouvert toute l'année.
Voilà, donc ce sera une occasion de vous rattraper pour tous ceux qui n'ont pas pu venir à cette présentation de votre film à Laval, dans le cadre des conférences Altaïr, ou une occasion d'approfondir encore un petit peu plus ce que vous nous avez montré dans ce film. On va revenir justement sur ces peuples. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Qu'est-ce que, en dehors de vouloir préserver leur culture? Vous avez parlé des Wayana qui sont animistes, par exemple. Oui. Ça paraît un petit peu étonnant aujourd'hui.
C'est ce qui m'a le plus marqué et attiré chez ces peuples dès mon plus jeune âge, quand j'ai vécu en immersion. C'est le rapport extrêmement fort qu'ils entretiennent avec la nature. Ils n'ont pas la prétention que nous avons, qui consiste à considérer que la nature nous appartient. Eux considèrent qu'ils appartiennent à la nature.
Et que la nature est à notre service. C'est un petit peu ça en Occident.
Nous, c'est un objet d'exploitation. La nature, c'est rien d'autre. Et d'ailleurs, dans le mot animiste, vous avez le mot animal. Très raisonnablement, les peuples animistes savent et considèrent qu'ils sont les descendants des animaux. Donc les animaux et nous, et même les végétaux, nous faisons partie de la même famille. Donc, par exemple, avant de couper un arbre, on va lui demander pardon. On va faire un petit rituel pour que l'âme de cet arbre se transforme du mieux possible. Même chose avec un animal que l'on va devoir peut-être parfois tuer pour pouvoir s'en nourrir. On va demander pardon, on va demander la permission à l'esprit des animaux de la forêt à travers le chaman. Et puis une fois que l'animal aura été tué, on va lui demander pardon et faire une prière pour que son âme se transforme. Même chose quand on ira pêcher. Et ce rapport-là, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs dans l'humanité que nous connaissons aujourd'hui, dans notre humanité contemporaine. C'est des peuples qui sont extraordinaires. Et ils ont aussi une particularité qu'on oublie souvent ou qu'on a eu envie d'effacer. 80% des sociétés tribales que nous sommes allés civiliser, comme on dit, sont des sociétés matriarcales à la base. Ce qui en fait des sociétés extrêmement sages, parce que la femme par nature est beaucoup moins guerrière que l'homme. Donc, société matriarcale, matrilocale et matrilinéaire. Ça veut dire que quand un couple se forme, le garçon va aller vivre dans la tribu de sa femme.
Pas l'inverse.
Pas l'inverse. Si par exemple, alors la plupart à l'origine étaient des chasseurs-cueilleurs, il n'y a aucun sens de la propriété. Quelqu'un qui possède, c'est un homme primitif, selon eux. Donc eux nous considèrent comme des hommes primitifs, parce qu'on est très accroché à la possession matérielle, la possession de la terre. Pour eux, c'est quelque chose de contre-nature que de chercher à posséder. Mais admettons qu'on soit dans des sociétés tribales d'agriculteurs. Là, c'est un peu différent parce que les agriculteurs, ils possèdent leurs terres. Eh bien, quand ce sont des sociétés matriarcales qui n'ont pas été converties au christianisme ou à l'islam, parce que c'est les deux grandes religions qui ont accompagné les colonisations, ou précédé même parfois les colonisations, quand ce sont des sociétés matriarcales, l'héritage ira à la plus jeune des filles. Alors chez nous, c'est le fils aîné. Ce qui veut dire qu'on gagne une génération. Hein, puisque la plus jeune des filles va garder une génération de plus longtemps encore, les biens que si ça avait été une fille ou un fils aîné. Donc il y a toutes ces sagesses-là qui m'ont beaucoup intéressé, et je trouve qu'on, nous les Occidentaux, du haut de notre complexe de supériorité, c'est un peu dur ce que je dis, mais bon, je suis cachin.
Non, mais il faut appeler un chat un chat, voilà, parfois.
Je n'ai pas passé 50 ans dans les tribus pour dire n'importe quoi. Donc nous, les Occidentaux, on a complètement perdu ça parce qu'on s'est situé d'emblée au-dessus. On a considéré que notre vérité était la seule valable. Que ce soit la vérité sociétale dans l'organisation de la vie, de l'économie, du travail contre de l'argent, par exemple, ou que ce soit la religion, ce qui est encore pire. On a considéré qu'il n'y avait qu'une religion, c'était la nôtre, et que toutes les autres, c'était des païens. En gros, des gens qui valaient pas la peine qu'on s'intéresse à eux. Et on voit comment ont été traités les Amérindiens, les Indiens des trois Amériques. Après le génocide, qui a quand même coûté à peu près 15 millions de personnes, après le génocide, on a voulu tuer l'Indien dans l'âme de l'enfant. C'est-à-dire en Amérique du Nord, on en a parlé récemment, au Canada, les enfants étaient enlevés à leur famille, placés dans des pensionnats chrétiens, où ils étaient souvent extrêmement maltraités, et pour en faire des Occidentaux et effacer complètement la partie indienne de leur culture. Et aujourd'hui, on découvre à côté de ces pensionnats des charniers d'enfants qui sont morts de faim ou de maltraitance et qui ont été enterrés dans des charniers dans l'anonymat le plus complet. Donc je crois que l'intelligence et la maturité d'une société se reconnaît aussi à sa capacité à faire exemple des erreurs du passé. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ben, on n'en est pas encore tout à fait prêt. Hein.
Absolument. Patrick Bernard, quand vous évoquiez le fait que les Wayana demandent pardon à un arbre avant de le couper, pardon à un animal avant de le tuer pour le manger, ça peut prêter à sourire. Et en fait, quelque part, c'est quand même révélateur d'une attention et du fait de se sentir effectivement en communion avec et en collaboration avec le reste du vivant.
Oui, c'est être en face avec la nature à laquelle on appartient. Donc, un enfant demande la permission à sa maman avant de faire quelque chose, dans toutes les éducations de tous les peuples du monde. Eh bien, la maman des peuples premiers, c'est la nature. Donc, avant de porter atteinte à la nature, même si c'est pour se nourrir, on va demander la permission. Puis, il y a des choses qui sont inconcevables chez les peuples premiers. On ne va pas chasser pour le plaisir. Chez nous, on chasse pour le loisir. C'est une aberration complète. On va chasser quand vraiment on ne peut pas faire autrement, pour pouvoir se nourrir. Et on fait très attention.
C'est pas un sport national.
Ah, c'est pas du tout un sport. Ils prennent plaisir à aller dans la forêt, à aller pêcher, à aller chasser. Mais il y a tout un tas de préliminaires parce qu'on ne peut pas aller prélever la nature comme ça, sans prendre de précautions, sans s'affranchir d'une certaine façon. Et ça, cet immense respect, ben, on le ressent aussi entre eux, avec les êtres humains. Par exemple, il y a très peu de guerres tribales dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs. Pourquoi il y a très peu de conflits et de guerres ?
Alors, parce que ce sont les femmes qui sont à la tête.
Déjà, d'une part, parce qu'il n'y a pas de notion de propriété.
Donc rien à posséder, à voler.
Rien à conquérir, rien à défendre. Donc ça, c'est très très important. Et on le voit dans le film que je vais présenter, ils ont des rituels. Ils ont mis en place des rituels exutoires. Parce que des fois, on en veut. On en veut à quelqu'un, on en veut à une autre tribu, parce qu'il y a des jalousies, parce que ceci. Alors ils organisent des rituels, ils s'invitent entre eux, ils attaquent des mannequins, un tronc d'arbre qu'ils vont déguiser plus ou moins en être humain, et avec leurs flèches, ils vont attaquer ce tronc d'arbre, avec moult danses et cérémonies, et dire à voix haute tout ce qu'ils ont sur le cœur, à l'encontre de ceux qui auraient pu devenir leurs ennemis si rien n'avait été fait, et qui participent à la cérémonie. Et les ennemis, après, vont aller attaquer le tronc d'arbre et dire à leur tour ce qu'ils ont sur le cœur. Et une fois que cette cérémonie, ces combats-là sont passés, c'est les joutes verbales, eh bien les jeunes filles de la tribu invitante vont aller chercher les hommes de la tribu invitée, belligérante, et vont danser avec eux. Et on va sceller la paix.
C'est le sens du pardon ?
C'est le sens du pardon. Mais je suis toujours surpris de voir que les sociétés qui s'érigent en maîtres du monde, qui se disent les seules civilisées, n'ont jamais été capables de mettre en place des rituels de ce genre. Moi, j'aimerais bien voir Poutine, Biden, Macron danser autour d'un totem, et se dire ce qu'ils ont sur le cœur et sceller la paix sans être obligé d'aller massacrer des innocents. Bon, je dis ça parce que c'est l'actualité. Mais et c'est pareil pour tout. La façon dont on porte atteinte à la nature aujourd'hui. Souvent, je préférerais voir quelqu'un dans son petit jardin qui a la main verte, parce que quelqu'un qui a la main verte chez nous, c'est quelqu'un qui parle aux plantes. Et je trouve que celui-là est beaucoup plus intéressant que celui qui fait le tour du monde avec des groupes de bidochons en voyage organisé et qui, au retour, n'a rien compris à ce qu'il a vu, quoi.
Alors, Patrick Bernard, on va revenir vraiment à l'authenticité en fait de ces peuples que vous avez pu rencontrer et filmer et que l'on découvre dans ce film Amazonia, les cueilleurs de mémoire. La vie quotidienne, par exemple, dans ce peuple, on va rester chez les Wayana. Donc la vie quotidienne, par exemple, comment se déroule-t-elle ?
Alors avant qu'elle ne soit trop bouleversée par l'arrivée du monde extérieur, par les pressions du monde extérieur, c'est une vie extrêmement calme, extrêmement douce et extrêmement simple, puisque c'est des peuples qui n'ont pas besoin de s'enrichir. Ils sont entourés d'une nature foisonnante qui leur donne toute la nourriture dont ils ont besoin. Donc c'est une vie très douce. On se lève le matin au lever du jour au chant du coq, en général. Donc sous les tropiques, c'est toujours assez réglé. C'est vers 6h du matin et la nuit tombe à 6h du soir. Et on passe un long moment à manger un plat de poisson, à discuter avec les autres. Ensuite, les plus jeunes vont aller vivre leur éducation dans les pas des plus grands, c'est-à-dire ceux de 5-6 ans vont partir en forêt avec ceux de 14-15 ans. Ceux de 14-15 ans partiront avec ceux qui ont 19 ou 20 ans. Et puis on va faire ces activités. Les femmes iront travailler aux petits abatis à côté du village. Il y a toujours un petit peu de bananiers, il y a toujours des petites plantations d'igname itinérantes, de manioc. Et donc elles vont aller s'occuper de leurs plantations de manioc. Les hommes peut-être vont aller à la pêche ou à la chasse. Et puis le soir, il y aura une grande veillée. On va grignoter dans la journée, il n'y a pas de repas marqué comme chez nous. Puis le soir, il y aura une grande veillée autour du feu, en plein milieu de la place du village, la place des cérémonies. Et on va se raconter les histoires de la journée, mais avec beaucoup d'humour, en se moquant les uns des autres, en tournant un petit peu la vie en dérision. Ça, c'est la vie traditionnelle. Quand il va y avoir une personne qui va décéder, dans beaucoup de peuples d'Amazonie par exemple, cette personne va être enterrée sous la place des cérémonies. Pourquoi ? Parce que les cérémonies auront lieu juste au-dessus, et on va appeler l'âme des défunts à chaque fois qu'une grande cérémonie aura lieu, donc c'est important que les défunts soient enterrés sous la place des cérémonies. Il n'y a pas de cimetière, On ignore qui est à quel endroit, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Et ce que les Yawalapiti ont filmé, c'est le retour des morts, le retour du deuil, c'est-à-dire un an après le décès d'une personne. Il faut arrêter de le pleurer, parce que tant qu'on le pleure ou qu'on la pleure, ben on retient son âme et on l'empêche de vivre sa transformation. Donc on va organiser une grande cérémonie avec des joutes, avec des sorties d'initiation, des sorties de réclusion des jeunes qui avaient été mis en réclusion, et pour permettre à l'âme de s'élever et reprendre une vie normale. Donc toute la vie quotidienne qui est très douce, qui est très calme, on passe des longs moments dans le hamac aussi, hein, quand il y a la nourriture et qu'il n'y a pas besoin d'aller chasser, on ne va pas chasser, hein, on n'accumule pas, donc on passe des longs moments dans le hamac aussi, mais toute cette vie est ponctuée par des rituels, par des cérémonies qui ont tout un sens bien précis. Ça va être l'initiation des jeunes filles, l'initiation des jeunes garçons, ça va être les rituels autour du deuil, autour des décès. Il y a toujours des rituels extrêmement fascinants qui sont mis en place. Alors souvent, tous ces peuples subissent une très forte pression des églises prosélytes. Église évangélique, église chrétienne, église catholique aussi dans certains cas, même s'ils sont parfois un peu moins violents que les protestants américains, mais enfin malgré tout. Et ces églises interdisent tous ces rituels. Donc ça provoque cette perte de repères, et j'en reviens à un problème majeur que j'avais mentionné tout à l'heure, qui est le taux de suicide énorme, parce que les jeunes sont tiraillés entre le monde moderne occidental et puis leur culture traditionnelle.
Patrick Bernard, vous avez dit deux choses là qui m'intriguent. Vous disiez que quand un an s'est écoulé depuis le décès d'une personne, il faut la libérer pour qu'elle puisse faire sa vie, continuer sa vie, c'est-à-dire y croient en la réincarnation ou bien ou au domaine des morts, des esprits.
Voilà, pas la réincarnation telle qu'on pourrait l'imaginer, parce que nous on se reporte un petit peu au bouddhisme, hein, donc pas cette réincarnation là, mais c'est une transformation qui va permettre de rejoindre l'univers des esprits, de la forêt, des animaux, de la rivière, des éléments célestes, parce que ce sont des cosmogonies où les astres ont une très très grande importance, et on va vivre un certain nombre de transformations avant de se réincarner à nouveau dans un être humain, selon la vie qu'on a menée. Il faut savoir que chez les peuples animistes, chaque personne a un ancêtre totémique, un animal totémique. Cet animal totémique, ça peut être une variété de poisson, ça peut être un singe, ça peut être un pécari, ça peut être un perroquet. Ça. Et en général, quand la personne meurt, elle va repartir un temps dans son animal totémique, avant de revivre d'autres transformations qui vont la ramener dans le statut d'humain, sachant que pour eux, l'humain n'est rien de plus qu'un animal parmi les autres. Hein. Donc il ne se place pas au-dessus. Hein. Faut toujours bien savoir. Nous, on a toujours tendance à se dire, il faut qu'il revienne humain, parce qu'il faut qu'il soit au-dessus des autres.
S'il y avait une graduation, en fait, dans les...
graduation. Là, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, un être humain animiste n'a pas le droit à la chasse de tuer son propre animal totémique. Donc alors que ses copains chasseurs vont pouvoir tuer par exemple les singes, un chasseur dont l'animal totémique est le singe, lui s'abstiendra de chasser des singes.
Et qui décide ou désigne cet animal totémique ?
C'est le chaman.
Le chaman. Et en fait le grand sage ?
C'est à la fois un grand sage et c'est celui qui a l'oreille des esprits. C'est-à-dire le chaman, c'est l'intermédiaire entre le monde des vivants, des incarnés, ceux qui vivent sur terre en chair et en os, et le monde des esprits. Mais quand je dis le monde des esprits, c'est le monde large. Hein. Ça peut être les esprits des personnes décédées, mais ça peut être aussi les esprits des animaux, de l'environnement, les esprits de la forêt, les esprits de la rivière. Donc le chaman a un rôle vraiment très très important. Quand une personne tombe malade dans un peuple animiste, c'est jamais le fait du hasard. C'est toujours une punition par rapport à un acte déplacé à l'égard des esprits. Peut-être il est allé chasser un animal sans demander la permission avant, aux esprits de la forêt. Peut-être il est allé pêcher sans demander la permission aux esprits des poissons de la rivière. Et ça suffit à déclencher une maladie. Et là, il faut que le chaman intervienne, qu'on fasse des sacrifices ou des offrandes, et puis tout un ensemble de prières qui peuvent durer des heures et des heures pour que la personne guérisse. Et moi, chaque fois que j'ai fait des séjours dans les huttes, dans les maisons traditionnelles des peuples animistes, j'ai toujours eu beaucoup de mal à passer des nuits complètes, parce que souvent, la nuit, c'est là où les chamans interviennent, c'est là où les esprits sont les plus actifs. Donc, il se passe toujours beaucoup de choses la nuit, quoi. On n'arrive pas à dormir.
D'où le hamac le lendemain.
D'où le hamac le lendemain, on traîne un peu la journée dans le hamac. Oui, oui, d'ailleurs, eux comme nous. Hein.
Du coup, alors là, ça me surprend en fait de dire qu'une maladie ou une blessure aussi sans doute, hein, et voilà, le fait de quelque chose, d'une mauvaise action que l'on a commis.
On retrouve un peu la conception bouddhiste du karma, quelque part. Hein, c'est-à-dire, ce que vous faites vous revient dans le bon sens ou dans un mauvais sens, selon l'attitude que vous avez eue. Et moi, j'ai assisté chaque fois à des choses qui m'ont toujours beaucoup interpellé. Un enfant qui joue avec une machette dans une rivière, qui s'amuse à planter la machette dans le sol de la rivière, et qui tombe malade le lendemain. Et quand je demande aux parents, mais pourquoi votre petit est tombé malade, ben, il me dit, le chaman a essayé de savoir qu'est-ce qui est arrivé, et l'esprit de la rivière a dit qu'il était mécontent. On ne joue pas avec un objet tranchant dans la rivière. Donc il a puni momentanément l'enfant pour qu'il ne recommence pas.
Oui, en plus c'est ça, la punition, elle a une vocation éducative, pédagogique.
Pédagogique, oui, complètement. Mais aucune maladie n'est le fruit du hasard. Pour eux, ne serait-ce que le Covid, ils ont été très touchés.
Oui, j'allais vous poser la question.
Très, très, très touchés. La plupart des vieux chefs que je connaissais, qui ont plus de 60 ou 70 ans, sont décédés malheureusement en un an et demi. Là. Mais pour eux, ben voilà, ils sont fatalistes. Si ça nous est tombé dessus, c'est que ça devait nous tomber dessus. On n'a pas fait ce qu'il fallait.
Comme une punition collective.
Comme une punition collective.
Bon. À bon entendeur, salut. Parce que
c'est souvent, avec le Covid, eux m'ont exprimé ça, ils ont dit, mais tu te rends compte, ce sont nos anciens qui partent. Ce sont nos mémoires, ce sont nos bibliothèques qui s'en vont avec le Covid. La punition est très forte. Quand on enlève un enfant, on est très triste. Mais un enfant n'est pas encore vraiment rentré dans sa vie. Donc c'est quelque chose qu'on accepte. Il y a une grosse mortalité infantile dans les premiers mois de l'enfance. Mais quand on enlève un ancien, ou un chef de tribu, ou un chaman, là, ça a un sens encore plus important pour eux.
Ce qui est presque contraire un petit peu chez nous, finalement. Oui. On se dit, nous, quand on perd quelqu'un d'adulte, on dit, bon, c'est pas grave, il a fait sa vie, enfin voilà. Alors qu'un enfant, on se dit, oh, il avait tout son avenir, et c'est très, très, presque plus douloureux, on va pas
pour
comparer.
Eux, l'ancien est encore plus important, puisqu'au moment où il arrive à l'âge d'être un aîné, d'être un ancien, il est plus forcément en capacité d'aller pêcher, d'aller chasser, d'aller travailler dans les abattis, mais il est en capacité de transmettre. Et l'ancien, on le bichonne parce qu'on sait que c'est lui qui va transmettre. Quand les jeunes sont reclus, l'initiation des filles et des garçons passe toujours par des périodes de réclusion.
Voilà, c'était la deuxième question auquel je pensais. Je voulais savoir ce que ça voulait dire, cette réclusion. Est-ce que c'était une détention en prison parce qu'ils avaient fait des choses mauvaises ou non?
Non, une jeune fille, dès ses premières menstruations, va être recluse. C'est sa maman qui va décider si elle est recluse 6 mois, si elle est recluse 1 an. Pendant ces 6 mois, 1 an, elle va rester dans la hutte. Elle ne va pas sortir. Elle va être nourrie abondamment. Et les femmes, les anciennes tout particulièrement, vont défiler à ses côtés pour lui enseigner tout ce qu'elle a besoin de savoir. Comment devenir une mère, comment séduire un garçon, comment faire des bracelets, des colliers, des objets rituels, comment faire la cuisine, comment préparer les plats, les contes et les légendes de la tradition orale qu'une femme doit savoir et doit ensuite enseigner à ses enfants. Donc tout ça va lui être enseigné pendant sa période de réclusion. Et quand la maman considéra que la jeune fille est prête, eh ben, elle va la faire sortir de la réclusion. En général, c'est à l'occasion d'une cérémonie rituelle de deuil, de levée de deuil. Parce que la sortie des jeunes adolescents en réclusion au moment de la levée de deuil, eh bien, ça montre une renaissance de la tribu et le moment où c'est le retour de la joie. D'ailleurs, chez les Yawalapiti, ça s'appelle Kwaroup, ça veut dire la joie, la levée de deuil. Et le garçon, c'est pareil, le garçon, alors lui, il sera moins enfermé que la jeune fille. Il va être enfermé par période, mais d'autres périodes, il va être obligé de passer des épreuves. Des épreuves de chasse, des épreuves de pêche collective, de la lutte, des combats entre eux, affronter des insectes piqueurs.
C'est où ça. Alors, voilà, oui, c'est ce que vous avez subi.
Oui.
Fait ou subi, suivi, je ne sais pas comment on peut... C'est quand même particulier ça comme rite.
Ah oui, c'est un rite extrêmement particulier, mais la raison en est toute simple. Vous habitez en forêt, tous les rites initiatiques sont adaptés à ce que sera la vie du jeune garçon ou de la jeune fille. Un jeune homme, Wayana, sa vie d'adulte sera marquée par de longues expéditions de chasse dans la jungle. S'il va chasser dans la jungle, souvent il va partir tout seul et il risque de se perdre. S'il se perd, il va avoir plusieurs choses à éprouver. Privation de nourriture. Pendant le rite initiatique, on est soumis au jeûne. Agression des insectes piqueurs. On est bouffé par les moustiques en Amazonie, surtout dans certaines zones. Donc, il faut apprendre à résister aux insectes piqueurs. Perte de morale. On n'a pas le droit, pendant la période initiatique, d'avoir des interrelations avec le sexe opposé. Parce que justement, il faut être capable, seul, de retrouver son chemin si on vient à se perdre, sans avoir une compagne ou un compagnon qui va vous épauler. Donc tout ça est très très symbolique en fait. Chez d'autres peuples, les éleveurs nomades, par exemple les Maasai, les rites initiatiques auront trait au bétail. Chez les Amers en Éthiopie, il faut que le jeune adolescent soit capable de courir sur une trentaine de dos de zébus alignés flanc contre flanc, sans trébucher. S'il parvient à faire ça 4 fois, les 30 zébus seront pour lui et il pourra se marier. S'il échoue, c'est qu'il n'est pas capable de tenir un troupeau et donc il faudra qu'il recommence l'année d'après. Donc chaque fois, le rite initiatique est parfaitement adapté à la vie future de la jeune femme ou du jeune homme.
Ouais. Aux nécessités, en fait.
Oui, c'est une nécessité. Alors aujourd'hui, tout ça disparaît. Par exemple, chez les Wayana, ça n'existe plus. Le Marrakech, c'est fini. Ils vont à l'école, ils passent des diplômes, ils sont à l'école française, ils reçoivent le RSA, ils sont christianisés.
Le Marrakech, pardon, c'est quoi? C'est tout l'ensemble des rites?
Le Marrakech, c'est le nom d'une vannerie dans laquelle sont coincés à peu près 200 à 300 guêpes et fourmis carnivores qui sont coincés par la taille. Et cette vannerie, on vous la passe après sur tout le corps. Donc la cérémonie a pris le nom de cette vannerie. D'une tribu à l'autre, ça sera différent.
Et puis, ils ont peut-être de la crème anti-insecte, je ne sais pas.
Non, je
caricaturais peut-être.
Non, mais non. Par exemple, vous touchez un truc qui était sensible pour moi. Autant les jeunes Indiens sont assez peu sensibles aux piqûres parce qu'ils ont déjà l'habitude de vivre nu et d'être piqués par des insectes à longueur de journée. Autant moi, le petit blanc là, avec la peau à la couleur du cachet d'aspirine, ils ont été très surpris parce que je me suis mis à enfler, à rougir. Ils ont eu très peur. Et eux m'ont passé des produits. Alors c'est en général du citron mélangé avec de l'urine, c'est pas forcément ragoûtant, mais en tout cas ça vous soigne.
Si c'est efficace.
C'est efficace, ils m'ont passé des produits à la fois pour m'apaiser et pour éviter les réactions.
Bon, et donc vous disiez, aujourd'hui donc, les jeunes vont à l'école et donc...
Ben voilà, l'exemple par exemple dans mon village d'Antekumpata, il y a une grosse séquence dans le film, puisque j'y suis retourné récemment, les enfants vont à l'école française, à l'école primaire. Il y a une école primaire dans le village, donc il n'y a pas de problème. Tant qu'ils sont à l'école primaire, c'est toujours des petits-enfants joyeux. Ils vont à l'école avec leur tenue traditionnelle, le petit cache-sexe rouge, bon, des enfants joyeux.
Et la cohabitation avec les autos... Enfin, avec...
Leur village, donc c'est que sont que des
Indiens. Ah oui, d'accord, il n'y a que
des Indiens. Par contre, justement, vous mettez le doigt sur la cohabitation. Dès qu'il est temps d'aller au collège, ils doivent quitter le village. Ils vont dans la ville, à Maripasoula. Là, ils se retrouvent avec des métropolitains, avec des créoles, avec des boni, boche, saramaka, qui sont les autres peuples du fleuve. Et là, ça se passe. Ils vont en pension ou chez les religieuses. Et là, ça se passe très très mal. Alcoolisme, drogue, conflit, parce qu'il y a encore beaucoup de racisme en Guyane. On n'aime pas trop les Indiens. C'est les premiers habitants. On ne voudrait pas qu'ils revendiquent trop. Les Indiens sont très timides aussi. Ce ne sont pas des gens qui s'expriment facilement. Donc, pour pouvoir s'exprimer, il faut avoir un petit coup dans le nez. Et ils reviennent au village. À 15-16 ans, ils sont détruits. Complètement détruits. Donc, on est en train de se battre maintenant pour créer au moins une ou deux classes de collège dans le village. Pour éviter qu'ils ne partent trop tôt, parce qu'ils partent à l'âge où ils sont le plus fragiles. À 12-13 ans, c'est l'âge où on est le plus fragile. On ne peut pas quitter, dans une tribu, on ne peut pas quitter sa famille à 12-13 ans, c'est juste pas possible.
Je vais peut-être poser une question idiote, mais quel est l'intérêt pour eux d'aller à l'école, en fait?
Parce que maintenant, la vie traditionnelle est terminée, donc il y en a qui aspirent de devenir technicien au centre spatial de Kourou, il y en a qui veulent devenir commerçant, il y en a qui voudraient devenir ingénieur. Ils quittent les villages, ils rentrent dans la vie moderne, ils vont vivre à Cayenne, ils vont vivre à Saint-Laurent-du-Maroni, donc ils sont obligés d'aller à l'école. Mais souvent, comme ça se passe mal, c'est pas forcément des bons élèves, donc vers l'âge de 16, 17, 18 ans, ils reviennent au village. Mais alors là, ils amènent la drogue, ils amènent l'alcool. l'alcool avec eux. Ça se passe très mal. Alors les missionnaires, les pasteurs évangéliques essayent de les récupérer, mais c'est pas mieux. Ils arrivent parfois à les sortir de l'alcoolisme ou des addictions, mais c'est pour les mettre dans une autre addiction qui est une religion extrêmement restrictive.
Et qui n'est pas la leur.
Et qui n'est pas la leur.
Et qui est en conflit finalement avec leur culture et leur culte.
Ce sont des religions qui interdisent les rituels. Même, j'ai un ami qui s'appelle Mimi Sikou. Souviens de ce nom-là, c'était le film.
Un indien dans la ville.
Voilà, ben Mimi Sikou, il n'a pas été trop content qu'on lui pique son nom. D'ailleurs, il a 70 ans, il est encore dans le village. C'est le meilleur vannier de la tribu. Il fait des vanneries absolument merveilleuses. Et sur ces vanneries, il y a toujours les dessins des animaux totémiques. La tortue, le jaguar. Eh bien, ces enfants qui ont été convertis par un pasteur évangélique de l'autre côté du fleuve au Suriname, hein, puisque c'est des fleuves qui sont frontières entre le Suriname, le Brésil, la Guyane, les pasteurs ont interdit de mettre les motifs des animaux totémiques sur les vanneries. Donc maintenant, il fait des vanneries.
Mais ils ont le droit d'interdire.
Ah ben, la religion, elle a tous les droits. Il n'y a pas un policier derrière qui viendrait dire « Non, vous n'avez pas le droit d'interdire ». En plus, ils ne sont même pas en France, ils sont au Suriname. Mais il y a juste une rivière à traverser. Donc, c'est tout un tas de situations qui sont extrêmement dures. Alors, il y a quelques tribus qui s'en sortent, comme les Yawalapiti. Mais alors, ils ont fermé leurs réserves. Ils ont dit « Personne ne rentre ».
Alors, du coup, ils sont combien, par exemple, ces Wallapiti ? Wallapiti.
Ils sont 200 personnes. Mais ils sont dans une réserve, le parc du Xingu, qui est grande comme la Belgique. Et là, il y a 16 tribus. Mais ils ne sont pas nombreux, hein, quand même. Hein. Ça, c'est quelques dizaines de milliers de personnes, ces 16 tribus. Donc, avec le gouvernement Bolsonaro, maintenant, ce gouvernement-là veut supprimer toutes les protections, toutes les lignes de démarcation, veut envahir les terres. Donc, ils sont en pleine lutte contre les agents gouvernementaux du Brésil. Donc, ils ont d'énormes problèmes. Mais ils ont gagné une ou deux générations parce qu'ils ne se sont pas laissés dévorer par le monde extérieur. Simplement le fait, par exemple, qu'ils aient gardé leurs liens traditionnels, leurs racines culturelles, en n'acceptant pas de se laisser convertir ou évangéliser, ça leur a permis de garder une grande force et une grande fierté de ce qu'est leur propre culture.
Et il y a des échanges entre les tribus, etc. Parce que par exemple, on pense à la pérennité, aux enfants. Ils ne peuvent pas avoir que des enfants entre eux, oui. En petite tribu. Et du coup, il y a des échanges ou est-ce que c'est la mort annoncée en fait, d'une tribu.
On va dire avant les années 50. Ils étaient assez isolés les uns des autres parce qu'ils étaient très peu nombreux sur de très grands territoires. Maintenant, comme ces tribus se sont considérablement réduites, ils ont tendance à faire des mariages intertribaux. Par exemple, chez les Yawalapiti, ces tribus auraient dû disparaître normalement. Mais les garçons ont épousé des femmes d'autres tribus. Des hommes d'autres tribus sont venus épouser des femmes Yawalapiti, mais comme c'est une société matriarcale, c'est celui qui vient de l'autre tribu qui va vivre chez les Yawalapiti. Donc ils ont grossi le village, ils ont eu des enfants, et dans ce village de 200 personnes, tenez-vous bien, on parle 14 langues. Parce qu'il y a 14 femmes qui sont arrivées d'autres tribus. Et l'enfant apprend la langue de sa maman, pas la langue de son papa. Une société matriarcale. Donc comme c'est la langue de la mère qui domine, eh bien, chez les Yawalapiti, on parle 14 langues, plus le portugais maintenant, puisqu'il y a une petite école où ils apprennent aussi le portugais. Donc vous voyez, c'est assez paradoxal, mais c'est tonique, c'est dynamique, et voilà, c'est des peuples, par exemple, ils vivent encore dans la nudité, ils n'ont pas de complexe de la nudité. Alors un jour, ils vont être habillés à l'européenne, et puis le lendemain, vous allez les voir, ils vont se balader tout nus dans le village. Les cérémonies, c'est toujours dans la nudité, avec des peintures corporelles. Il n'y a pas eu tous ces travers, tous ces complexes que des religions ont pu amener ou des choses comme ça, ils ont cette grande fierté d'être encore eux-mêmes. Mais c'est rare hein, aujourd'hui sur la planète.
Patrick Bernard, avant qu'on clôture cette émission, vous vouliez nous parler d'une autre association que vous avez fondée.
Oui, il y a deux structures en fait. En 1988, donc ça date pas d'hier, j'ai fondé ICRA International, c'est la Commission internationale pour les droits des peuples aborigènes. Elle a grandi, C'est l'équivalent d'amnestie pour les peuples autochtones. Elle est consultante aux Nations Unies, elle est à l'origine de plusieurs collectifs d'associations, notamment du collectif qui en 1992 a obtenu que le prix Nobel de la paix soit remis à Rigoberta Menchú, une indienne maya quichée du Guatemala. Pourquoi 1992? Parce que cette année-là, en fait, est le cinquième centenaire de la conquête des Amériques. C'est aussi le cinquième centenaire du plus grand génocide que l'humanité n'ait jamais commis. Et ICRA fonctionne exactement comme Amnesty International, sous forme de campagne de pression, de sensibilisation auprès des multinationales, auprès de tout ce qui porte atteinte au peuple premier. Parce qu'on se rend compte aussi que les peuples premiers sont les derniers gardiens de la nature. C'est les seuls véritables protecteurs.
Je pense qu'effectivement, ce que vous nous avez dit et ce que montre votre film sur les peuples premiers, je pense que ça va bousculer un petit peu certaines idées.
Oui. Et donc, en complément, en 2010, on a créé la fondation ANACO, parce qu'on se rend compte que le militantisme est une chose, mais n'arrive pas toujours à ses fins, en tout cas à court terme, la fondation ANACO pour permettre aux communautés autochtones de constituer par elles-mêmes leur propre livre d'histoire en enregistrant leur culture, la parole des anciens, en retransmettant. Et cette fondation, son statut de fondation lui permet de recevoir des legs. Donc depuis pas mal d'années déjà, on reçoit beaucoup de legs sous forme de films et d'enregistrements qui ont été réalisés dans les années 30, 40, 50, 60 par les pionniers de l'exploration ethnographique. Dès qu'on reçoit ces films, on les numérise et on les restitue aux tribus concernées parce que c'est une partie de leur histoire et souvent ils sont abasourdis de voir comment vivaient leurs ancêtres parce que il a suffi de 3-4 décennies pour rayer ces cultures-là de la carte. Donc ICRA International, il y a un site internet, c'est icrainternational.org, et la Fondation ANACO, c'est fondation-anaco.org. C'est les deux structures vraiment qui accompagnent à la fois le combat de ces peuples autochtones pour défendre leurs droits minimum, leur culture.
Leur survie.
Leur survie, bien sûr, mais aussi la constitution d'une mémoire qui est précieuse et indispensable pour les générations qui vont suivre, chez eux, mais chez nous aussi.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est utile aussi pour nous et de se replonger quand même, enfin de sortir un petit peu de nos ornières, hein, finalement, et de voir que ce que vivent certaines tribus loin de chez nous, c'est pas que du folklore, c'est pas que pour le touriste, hein. Il y a vraiment des fondements qui sont peut-être des retours, qui seraient pour nous peut-être des retours à la vraie nature de l'homme.
Oui, en tout cas, il y a des exemples à prendre, il y a des enseignements à prendre, et je crois que la différence, c'est la plus grande de nos richesses, quoi. Il y a une petite citation qui dit « S'il faut se ressembler un peu pour se comprendre, il faut être différent pour s'aimer ». Et moi, j'adore cette citation parce que je suis complètement là-dedans. Dès que je vois un peuple qui vit un peu différemment du mien, sans renier ma culture, hein, où il y a plein de choses magnifiques chez nous, je tombe amoureux parce que je trouve que tant qu'on aura des choses à s'échanger, une harmonie pourra perdurer. Quand on devient, on force les gens à devenir les copies ratées du dominant, on arrive à des sociétés complètement dégradées.
Eh bien, merci beaucoup, Patrick Bernard, hein, de cette belle morale, hein, de cette invitation aussi à réfléchir, hein, et puis de cette plongée en immersion dans les peuples de l'Amazonie grâce à votre film « Les cueilleurs de mémoire ». Et puis, donc, on rappelle qu'on peut retrouver toutes ces recherches, retrouver ces peuples, en fait, hein, dans le Saumurois, grâce aux deux musées et aux animations que vous proposez pendant l'été. Donc, on tape « ANACO » et « ICRA » et on a toutes les infos qu'il faut sur vous, Patrick Bernard. Un grand merci.
Merci à vous.
C'était Voyage au bout du monde, une rencontre proposée par Isabelle Rupin.